Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 17 juin, il est 8h30 au programme de cette matinale. L'été est bien né, bel et bien là quand on le reçoit. Philippe, bonjour.
Bonjour.
De l'association Enimi BD, le festival Bulle de Burle revient cette année, ce sera les 29 et 30 juin, on en parle avec toi dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, nous retrouverons Benjamin Dessoninck, directeur des ABPS de Lozère. Je l'avais rencontré il y a quelques semaines, ce sera tout à l'heure, il y aura de la musique comme d'hab et on commence par les dites-vous, vous êtes bien sûr Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dévoté là...
Ce n'est que les dites-vous des Barthas. La semaine dernière, nous avons eu la chance avec l'équipe de Barthas d'aller à Narbonne aux états généraux des radios associatives organisés par la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives. La CNRA, c'est en fait, pour faire court, celle qui défend nos intérêts, et de très belle manière d'ailleurs, face aux institutions étatiques type le ministère de la Culture par exemple. Alors, comment c'était ces états généraux et comment se porte la radio associative? Ah bah, au-delà du fait que nous avons rencontré plein de radios copines, des personnes passionnantes et passionnées qui aiment partager cet amour de la radio, nous avons eu aussi droit à un beau discours propagandiste sur le DAB+, la radio numérique. On nous martèle depuis quelques années que non, la FM ne va pas disparaître, que tout va bien se passer. Oui, mais là, non. Je vous le dis, ça sent la fin de la FM, au bas mot je dirais, allez, dans une dizaine d'années. Les conséquences vont être dramatiques pour les radios telles que Barthas, car l'investissement pour passer à la diffusion numérique représente une bonne dizaine de milliers d'euros pour la diffusion, hein, plus tous les investissements à faire pour changer ici pas mal de matos dans nos studios. C'est un peu rageant alors que nous avons la FM qui fonctionne admirablement bien. À qui ça profite? Eh bien, aux quelques entreprises qui vont installer les nouveaux émetteurs et aussi aux constructeurs automobiles, bah oui, puisqu'il faut installer de nouveaux postes radio DAB+ dans les voitures. Bref, un marché juteux dont malheureusement nous serons les victimes collatérales puisque nous ne pourrons pas investir sur le DAB. Ce jour-là, nos craintes n'ont pas été entendues par le CSA, devenu l'ARCOM, et le ministère de la Culture qui nous faisait leur discours de bons petits soldats du DAB+. La conclusion du CSA, pardon, de l'ARCOM, le DAB, c'est l'avenir. Peut-être, mais certainement pas celui des radios associatives. Car pour l'instant, aucune aide n'est évidemment proposée pour passer au numérique, ce pourquoi nous ne sommes pas contre. Mais on n'a pas le pognon. Que voulez-vous que je vous dise? Bah, réponse dans une petite dizaine d'années.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Et pourvu qu'on ne nous l'enlève jamais, nos radios libres et indépendantes, car on peut en faire des choses à la radio, et notamment parler de bande dessinée. Nous sommes donc en plateau avec Philippe pour le festival Bulle de Burle. C'est les samedis, dimanche et c'est le samedi 29 et le dimanche 30 juin, c'est lundi matin pour tout le monde, à Saint-Enimi, bien sûr. Alors ça fait plusieurs années qu'on se connaît, Philippe, et le festival, comme la BD, se porte bien. Encore une belle affluence l'année dernière.
Oui, une belle affluence, mais rien n'est jamais acquis. Hein. On est toujours dans la question de savoir si la météo, si les autres événements, et on en parlera peut-être pas vraiment, mais on les a tous dans la tête, si la motivation des lecteurs est là. Et puis, il y a aussi une multiplication de propositions culturelles sur cette fin de printemps et début d'été. Donc, on rame normalement, mais sans certitude que le courant nous portera comme d'habitude. On verra.
Croisons les doigts aussi, puisque, bah oui, il y a les élections qui seront là le dimanche, et donc, hop, un local en moins, forcément.
Et évidemment, c'est un peu le prix que payent les associations en ce moment dans cette affaire. C'est-à-dire que on est tous soumis à des besoins en termes de locaux et les communes en général sont toujours prêtes à nous mettre à disposition ce qu'elles ont. C'est le cas à Saint-Élémy depuis des années. Sauf que là, il va falloir faire des choix. Les choix sont en train d'être arbitrés. On espère qu'on ne perdra pas les locaux les plus conséquents. Parce qu'entre-temps, nous, nos auteurs, ils ont été invités. Ils ont répondu tous qu'ils allaient venir, que ce n'était pas ça qui allait les troubler, qu'ils préféraient venir dans les gorges du Tarn dédicacer que d'aller je ne sais où. Et donc, en conséquence, on attend. On attend, mais sur le principe, quand même, l'essentiel est en place et devrait fonctionner.
Il y en a une quinzaine d'auteurs, on en parlera tout à l'heure. 17 ans de festival, il faut de bons ingrédients en général pour qu'une recette fonctionne. Quels sont ceux du festival ?
Ceux du festival, c'est d'abord la convivialité à destination justement des auteurs. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Au fil du temps, on s'est fait une image d'un lieu sympa, d'un lieu où on accueille les gens de façon simple, mais avec beaucoup de disponibilité. C'est ça qui est le plus important. Préparer en amont le plus méticuleusement possible pour être le plus avec eux quand ils sont là. On les accueille dès le vendredi, on fait du canoë, on fait une balade à pied pour ceux qui préfèrent. On prend du temps autour d'une guinguette. Le dimanche soir, on fait un petit clin d'œil là-haut sur le Cos au domaine des Boissés. Bref, autant de petites choses qui se disent dans le milieu de la BD et qui fait que Enimi BD et Bulle de Burle sont devenus un petit passage, pas incontournable, mais apprécié, quoi.
Et puis les auteurs, autrices adorent aller à la rencontre du public, non seulement parce que ça fait vendre évidemment, mais c'est surtout que c'est un travail super solitaire.
Tout à fait, sortir de son isolement devant sa planche, c'est déjà énorme, et en plus quand ça se fait dans un lieu convivial, où on a du temps pour passer avec ses lecteurs, où on peut prendre le temps de leur faire une dédicace un peu sympa, un peu colorée, etc. Ça c'est sûr que ça fait aussi partie des plus que les auteurs apprécient, et que les visiteurs du coup apprécient également. C'est ce qui fait qu'on a un public nous très varié. Un public qui va depuis les connaisseurs qui viennent de très très loin jusqu'aux parents des enfants avec qui on a travaillé tout au long de l'année et qui se disent « Oui, tiens, quand même, les gamins en parlent, il faudrait bien aller voir ce truc-là. »
Moi qui y vais depuis plusieurs années, c'est génial aussi, et puis qui ai la chance de travailler en radio. Ils sont super accessibles, c'est vraiment assez sympa de passer un bon moment avec eux. Ils prennent le temps de parler, de dédicacer. Enfin, c'est vraiment pas du travail à la chaîne, entre guillemets. C'est vraiment, ils prennent leur temps.
Esprit vacances. Voilà, ça tombe au moment de la césure entre printemps et été, et c'est devenu pour eux un peu rendez-vous aux détentes. Ouais.
Alors comment et pourquoi il est né ce festival Bande dessinée à Saint-Élémy?
Il est né d'abord de la dynamique médiévale qu'il y avait sur le village, avec la compagnie Burlatine, et puis quelques passionnés de BD à l'intérieur. Donc c'est d'abord le genre heroic fantasy à l'époque et SF qui dominait. Petit à petit, nous on l'a ouvert, bien sûr, à tous les genres de la BD aujourd'hui. Et puis là, c'est un petit clin d'œil. On a quelques bretonnants là, qui reviennent, les Rollins, le Mercier et compagnie, qui vont nous redonner un petit clin d'œil sur ce qui était quand même la belle ouvrage de l'heroic fantasy ou de la fiction, avec des graphismes exceptionnels, avec des univers particulièrement créatifs. Donc ce petit clin d'œil de retour en arrière sur notre histoire est aussi intéressant parce que les auteurs, eux, ont envie de le faire partager, quoi.
Ouais, et puis forcément adaptabilité, puisque au fil des années, vous n'avez pas manqué le coche, notamment du manga. Fallait pas rater le train, et vous l'avez pris à l'heure.
Oui, et là, cette année, on a un beau plateau manga, effectivement. On a créé depuis maintenant plusieurs années un espace manga, ce qui va nous poser un peu question cette année par rapport aux locaux, mais on va quand même l'identifier. Et dans cet espace manga, effectivement, petit à petit, c'est pareil, ça se dit. Alors, on n'a pas de mangaka japonais, parce qu'on n'a pas les moyens, nous, de faire traverser la planète avec un avion, et puis ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, le mangaka français qui commence à être présent sur ce genre, commence à se dire que Saint-Élémy, ça peut être une belle destination. Et notamment, on reçoit cette année Michael Almodovar, qui va intervenir derrière tout le vendredi en milieu scolaire, et qui, quelque part, est une des têtes de pont du mangaka français, et donc qui sera au contact des visiteurs, avec un autre clin d'œil, c'est Cédric Piffard, qui vient de commettre avec l'entente UNESCO, la Cos Cévennes, un petit manga documentaire, on pourrait dire presque, un petit manga éducatif, sur le milieu, la biodiversité, la qualité des paysages de nos territoires, et qui donc sera présent aussi avec un petit manga très accessible, qui parle du coin, donc qui devrait passionner aussi le public jeune sur ce genre.
Et puisque vous êtes à la page, pardon de faire ce jeu de mots de lundi matin, cette année le thème c'est les Olympiades BD dans les gorges du Tarn. Alors ça va courir jusque fin juillet, explique-nous un peu le...
Oui, alors on est en partenariat depuis plusieurs années aussi avec le CNL, le Centre National du Livre, et dans le cadre de ce partenariat, on développe une activité qui inclut le festival et qui va jusque fin juillet, qui s'appelle Partir en livre. L'idée, c'est de sortir les bouquins un peu des librairies ou des bibliothèques et de les mettre au contact avec leurs auteurs du grand public. Donc ça passe bien sûr par le festival, mais ça passe aussi par des animations, des ateliers qu'on va offrir tout au long du mois de juillet. Alors d'abord au cœur du village de Saint-Élémy, au presbytère, sur la place du presbytère, qui est superbe, et tous les jours, de 15h à 20h, avec des intervenants, des groupes constitués qui viennent des centres loisirs ou du centre de pleine nature. Et puis bien sûr, des visiteurs qui spontanément aperçoivent ce coin, cette expo, ce coin un peu sympa pour découvrir des BD et éventuellement donc des animations. Et puis cette année, petit complément sur ce dispositif Partir en livre, on va en plus se déplacer. On a un ou deux rendez-vous en camping, on va vers les gens pour animer là aussi des situations, des ateliers autour du 9e art, pour montrer que finalement la BD, tout le monde peut en profiter à tout moment, et y compris donc dans son camping en plein été.
Ça sera jusqu'au 21 juillet et vous pouvez retrouver les dates, les horaires, etc. sur le site enimibd.fr. Tiens, d'ailleurs, tu disais la cour du presbytère, pardon. Justement, la salle capitulaire, ce ne serait pas une bonne option pour...
Alors, ça pourrait être une superbe option, sauf que là, on est en travaux. Ah. L'ensemble du monastère est en restauration de sauvegarde, pour les aspects extérieurs notamment. Donc, ce qui veut dire que pendant toute cette année 2024, cet espace n'est pas accessible. On l'a utilisé dans les débuts du festival. Hein. Nous, quand on l'a repris dans les années 2012, on a fait une ou deux éditions là-haut. Ça a un charme extraordinaire. Bon, par contre, c'est un peu compliqué pour y faire venir du monde.
C'est ça.
Voilà, le public est grégaire et aime bien se situer plutôt sur le bas du village.
Bien sûr. Alors, au festival, c'est encore une quinzaine d'auteurs. T'en as cité quelques-uns qui seront là. Et d'ailleurs, je dis une quinzaine, mais c'est un peu plus avec les auteurs et jeunesse. Hein, pardon, j'ai été un peu vite. Il y en a peut-être quasiment plus, près de 30. Hein,
voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut presque doubler si on prend les trois publics. Ouais. Le public manga, le public jeunesse et le public BD, on est presque à 30.
Quoi. C'est ça. On pourra pas toutes et tous les citer, mais évidemment, commençons par ce qui a été l'un des événements phares de cette année, la sortie du livre d'art sur les traces d'ennemis, balades et légendes. Florence Magnan sera là. Très bel objet, soit dit en passant. Tu es venu nous en parler à sa sortie. Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'avaient pas écouté la matinale, quelques mots sur cette aventure.
Alors ça, c'est une belle aventure qui dure maintenant depuis plus de 3 ans. On a retrouvé le manuscrit médiéval de la légende d'Ennemi, qui date du XIIIe siècle, XIVe, en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France à Paris, sauf qu'il n'était pas illustré. Et donc, on est parti sur ce projet avec la DRAC, et puis le conseil départemental et la commune. Et on a donc pris la tâche de Florence Magnien, qui est une des spécialistes d'Heroic Fantasy en France, qui a un univers très particulier, et qui a accepté ce pari d'illustrer ces 58 folios que nous avons en plus fait traduire par des universitaires pour qu'ils soient accessibles, bien sûr, en langue française, et qu'ils donnent à chacun la possibilité de se balader à l'intérieur complet de la légende, parce qu'elle a souvent été un peu raccourcie.
C'est ça, j'ai appris plein de choses, hein, et je ne manquerai pas de me faire dédicacer le livre quand j'y serai.
Et oui, et là je pense que Florence va être un peu prise d'assaut, parce que depuis que le livret est sorti en décembre, il y en a qui piaffent d'impatience pour avoir leur dédicace.
Tu m'étonnes. Alors comme chaque année, l'affiche est réalisée par un artiste qui vient sur le festival pour cette édition, c'est Valès qui s'y est collé, un grand nom de la BD, puisqu'il a fait notamment avec Van Damme, qu'on ne présente plus, l'excellente BD Les Maîtres de l'Orge, c'est bien ça.
Tout à fait. Ouais, les damnés de l'Orbrun. Bon, Valès est là. Valès est un type extrêmement discret. Il a des origines aveyronnaises, donc on pouvait supposer que la Lozère le tenterait, mais c'est pas ça qu'il a tenté en fait. C'est le côté qu'on décrivait tout à l'heure, très sympa, très accessible, très simple, et qui lui convient bien, qui est tout à fait dans sa personnalité. Donc il a accepté de signer l'affiche, qui a une certaine personnalité, hein, comme toutes les affiches qu'on a sorties depuis une dizaine d'années. Et Francis sera là, donc, bien sûr, pour dédicacer ces séries cultes dont on vient de parler, notamment.
Est-ce que vous avez un cahier des charges que vous filez à l'artiste pour l'affiche, au-delà, évidemment, des infos, je dirais, normales, mais est-ce que vous avez quelques exigences ou c'est 100% libre ?
C'est entre les deux. C'est-à-dire que ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui nous demandent effectivement un petit peu quelles sont les orientations qu'on attend. Alors là, c'est assez simple. C'est un personnage issu de leur monde à eux, de leur univers BD, et puis, bien sûr, un cadrage local dans le contexte. Mmh. Ça, c'est les deux seules pistes qu'on peut éventuellement leur suggérer. Le reste, ça reste complètement libre, effectivement. Et c'est ce qui fait que chaque année, l'affiche est un bel émerveillement, parce que quand on la découvre, on a l'impression qu'on ne s'y attendait pas, mais que c'était évident, quoi.
Mmh. Allons-y pour parler de quelques auteurs, autrices, qui sont peut-être un peu phares, dont on parle peut-être un peu moins, parce qu'il y aura Eric Hupch, hein, qui sera là forcément, comme chaque année, je pense. Hein, il ne va pas rater le festival. Allons-y pour quelques auteurs, autrices que tu voulais.
Alors, on a cette année un bel espace jeunesse. C'est vrai que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on travaille régulièrement avec le public jeune, scolaire notamment, mais pas que. Et donc, les auteurs jeunesse se sont dit que Saint-Élémy, c'était un bon rendez-vous. Alors du coup, on a une palette assez éclectique d'ailleurs. Hein. Ça va depuis Amandine avec Miss Tinguette et Cartoon, en passant par Kiefer et son Jojo et Jeannette, et puis Huong, et puis Les Souris du Louvre, et puis la collection culte de Ernst qui s'appelle Boula Z. Voilà, on a donc Lisano aussi, qui était venu faire une semaine d'animation l'an passé, puis il n'avait pas pu être présent au festival. Cette année, il est là, avec notamment sa dernière création sur le camp du Struthof, qui est remarquable. Donc, une palette d'auteurs destinés à la jeunesse qui apporte à la fois un premier contact un peu sympa, un peu girly pour certains avec la BD, mais qui vont aussi chercher, comme c'est le cas pour Lisano, des thèmes plus fouillés et qui mettent à disposition donc, de ce public jeunesse une réflexion graphique, mais une réflexion sur ce qui les entoure ou leur histoire. Donc, un espace qui, cette année, vaut le coup d'être visité. Quoi.
Transition toute trouvée pour parler du spectacle qui ouvrira le festival presque, hein, le spectacle La Voix est libre des 3 ans.
Oui, toujours. Ça, c'est un petit rituel qui fait que les mamans se disent « Ah ouais, il faut y aller le matin parce que là, les petits vont en profiter. » Et puis, quand les petits en profitent, c'est bien connu, les parents en profitent aussi. Et donc, derrière, c'est une façon d'inviter chacun à se déplacer. Stéphanie, qui prend la main dans ce moment-là, a toujours une capacité, avec douceur et beaucoup de disponibilité, d'accueillir donc les petits avec voix et musique. Ce qui fonctionne parfaitement en ce début de festival.
Je l'avais reçue sur cette antenne, elle est géniale, foncez au spectacle. Tu m'en as parlé hors antenne, enfin avant qu'on prenne l'antenne, et je ne la vois pas sur le programme, la conférence du samedi à 16h.
Oui, elle n'était pas tout à fait calée quand on a sorti le programme, on a été un peu précoce cette année. En réalité, parmi les nouveautés qu'on accueille en BD adulte, on a la nouveauté sur le Larzac, un pavé, hein, c'est le cas de le dire, qui est sorti chez Dargaud, qui, de couverture rouge bien sûr, claque, sur l'histoire de cette épopée qu'a été la lutte du Larzac. Et notamment, on a avec nous les deux témoins conséquents de ce pavé, c'est-à-dire Sébastien Vernier, qui est un illustrateur méticuleux, qui a produit là 240 planches assez exceptionnelles, et puis qui a croisé son savoir-faire graphique avec Pierre-Marie Terral, qui est lui le pape de l'histoire du Larzac, qui sait tout, qui a tout collectionné, les affiches, les tracts, les machins, les trucs, qui est ami particulier avec Beauvais. Bon, voilà. Donc, on a la chance que tous les deux, là, ces deux compères soient là. Et Pierre-Marie Terral a bien voulu accepter de faire une conf. Donc, il y aura une conférence sur cette histoire du Larzac avec cette référence que constituent donc Terral et Verdier le samedi à partir de 16h. Encore un de ces moments un peu important, un peu incontournable, qui fait que ça vaut le coup de se déplacer. Et puis après, bon, on peut déambuler, on peut prendre le temps d'aller dédicacer si on en a envie, quoi.
Et certains combats ont fait avancer les choses.
Et pas loin de chez nous, heureusement. Hein, on se rend compte que finalement, on a là à portée de main des gens dont l'engagement était exceptionnel, quoi.
Alors évidemment, il y aura des animations hein, tout au long du week-end. Quelles seront-elles les samedis, dimanches à 11h et 15h d'ailleurs?
Alors on reprend cette formule du 11h et 15h parce que c'est un bon moment. C'est le moment où on a envie de se déplacer. C'est le moment où on peut prendre 3/4 d'heure, 1 heure pour faire un atelier. Et c'est le moment où ça donne quand même le temps après pour en profiter au niveau des dédicaces. Donc rendez-vous 3 fois à 11h ou 3 fois à 15h le samedi et le dimanche avec 3 entrées. Une entrée plutôt BD affiche, une entrée plutôt manga et puis une entrée sur ce qui peut être une première planche. Voilà. Donc, de quoi s'exercer pour ceux qui en ont envie, notamment, pour, bien sûr, le public plutôt jeune, mais pas que. Et ces trois rendez-vous se situent donc le samedi à 11h et à 15h, et de la même façon, le dimanche à 11h et à 15h, ce qui est une façon de se donner rendez-vous pour se dire « Allez, on y va, et puis après, on en profitera ».
Un festival comme le vôtre ne peut évidemment, et comme beaucoup de festivals d'ailleurs, ne fonctionnerait pas sans partenaire. Nous sommes un partenaire médiatique, nous en sommes ravis. Il y en a plein d'autres nécessaires au bon déroulement du festival. Alors commençons simplement parce que donc vous bénéficiez de la Fondation Orange, si je ne m'abuse, hein, pour les citer, tant pis. Et vous avez été jury national de la BD, explique-nous tout.
Oui, cette année, c'est un petit clin d'œil qu'on a fait avec la Fondation Orange. Bon, ça fait plusieurs années qu'on est en partenariat, notamment sur nos activités en direction des publics éloignés du livre. Cette année, par exemple, on a travaillé sur un projet un peu conséquent avec une maison pour enfants à caractère sanitaire et social. Et la Fondation nous a proposé de faire partie du jury national de sélection de la BD Orange. Donc, normalement, ce sont des jurés individus. Là, nous, on a fait le choix d'être dans une situation collective qui est la nôtre, celle de l'asso. Et donc, on a créé un cercle de lecture à l'intérieur de l'association qui s'est réuni régulièrement puisqu'au départ, il y avait 53 BD. 53 pavés à lire, des pavés récents en plus, de grande qualité, qui devaient nous permettre de faire une première sélection au bout d'un mois et demi de 15, et puis au bout d'un mois et demi encore, une deuxième sélection de 5, et enfin, c'était récemment le 13 juin, la sélection finale avec le vainqueur. Donc cette démarche en plusieurs étapes a été extrêmement intéressante au sein de l'asso. Ça nous a permis de répartir les BD, de faire des petits groupes, de faire tourner, de faire de temps en temps le point, d'échanger bien sûr sur nos émotions, nos impressions. Bref, on a fait une plongée culturelle dans la BD actuelle assez exceptionnelle, et il faut le dire en plus dans des conditions particulièrement agréables, puisque la Fondation, en relation avec les éditeurs, nous a dotés de ces 53 BD qui aujourd'hui font partie du patrimoine de l'asso. Ils vont tourner comme on le fait assez systématiquement en ressources dans les différents lieux où on anime.
Ça c'est trop cool. C'est ton aussi 48 FM, hein, nos amis qui sont partenaires médias, et puis les étatiques, les traditionnels, hein, départements et régions.
Bien sûr, on est aussi un acteur culturel au sens propre du terme dans un territoire, et inévitablement les collectivités locales et territoriales font partie de ces partenaires dont nous avons besoin, au même titre que l'État à travers la DRAC, qui, elle, nous accompagne plutôt sur les activités tout au long de l'année en éducation artistique et culturelle.
On a parlé des auteurs, vous recevez, comme chaque année, des éditions aussi. Et cette année, ouais. Il y en a quoi, 7-8 ans.
Ça, c'est un choix, hein. C'est un choix qu'on a toujours maintenu. C'est d'ouvrir la porte aux auteurs, aux éditeurs indépendants qui trouvent là une vitrine, une capacité à diffuser, parce que c'est important pour eux. Mmh. Et donc, on a les piliers, j'allais dire, hein. Les éditions Jargy, les éditions Les Enfants Rouges, mais on a aussi, de temps en temps, chaque année, on essaye d'introduire des nouveaux éditeurs. Là, cette année, il y a un éditeur breton qui descend, hein, La Fée Émère, qui a repris notamment une partie de l'œuvre de Lucien Rollin, qui sera présent, ainsi que de Gwendal Lemercier. Et puis, on a les éditions Petit à Petit, qui travaillent notamment sur des BD documentaires tout à fait intéressantes, dont une sur le secteur de Montpellier. Et puis, les éditions Tapage, qui, eux, se sont plutôt spécialisés dans un traitement un peu délire de ce que sont les événements historiques propres à chacun des territoires. Et notamment, ils ont réutilisé ici le concept de la bête du Gévaudan. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Après, les éditions Sans Bulle, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, qui est derrière, qui est l'auteur de la série Arlate, Laurent Surac, qui est un grand spécialiste donc, de la partie romaine de cette histoire et donc de sa traduction graphique de grande qualité, puisque sa collection doit en être aujourd'hui au 9e ou 10e tome.
C'est quoi une bonne BD pour toi ?
Une bonne BD, c'est celle dont on se souvient quand on l'a lue quelques temps après. Là, vraiment, la participation au jury Orange nous a montré ça. Quand on a 53 BD à lire, c'est colossal. Et quand il faut en choisir même ne serait-ce que 15, alors nous, on a fonctionné en deux temps. Chacun en avait choisi 3, puis après, on a mis en commun. Là, on s'est rendu compte que le critère numéro 1, c'était ça. Qu'est-ce qui nous reste quand on a tout lu ? Voilà. Et ce qui nous reste, 9 fois sur 10, c'est d'abord ce qui nous a émus. Ce qui fait que quelque part, on est parti, on s'est fait prendre dans l'espace ou dans le temps, et que le graphisme, on peut en parler, mais ce n'est pas obligatoirement de lui dont on parle en premier. C'est d'abord de cette histoire ou de cette façon dont l'auteur a su nous emporter. L'émotion, donc, La BD, c'est d'abord ça, quoi. C'est comment je te prends, quoi.
Une émotion. Au-delà du public qui va encore venir en nombre, c'est sûr, je n'en doute pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? Ouais. Évidemment, un local.
Voilà, déjà des conditions matérielles qu'on va essayer d'optimiser malgré les circonstances un peu particulières. Et puis, toujours, je crois que ce qui fait la clé d'un bon festival, c'est une préparation millimétrée pour être le plus disponible possible et passer donc du bon temps, du très bon temps, à la fois avec les auteurs et avec le public. C'est là que ça marche, c'est là qu'on est content, parce qu'en fait, on est d'abord là pour se faire plaisir, quoi.
Le festival Bulle de Burle, c'est le festival qui cartoonne. Et voilà, deuxième jeu de mots ce matin, c'est parti.
Facile, Miss Tinguette.
Oui, hein, écoute, hein, fais ce qu'on peut. Hein. Ça se passe les 29 et 30 juin à Saint-Émy. Auditeurs, auditrices, foncez-y. Vous y allez sûrement passer un excellent moment et retrouver toutes les infos sur le site enemy-bd.fr. Merci beaucoup, Philippe.
Merci et à bientôt.
À très bientôt, excellent festival à toi. Allez, on se retrouve dans un instant à la rencontre de Benjamin Dessonin, que je vais y arriver. Et on écoute d'abord Damien 16. Vous êtes bien sur Radio Barthes.
J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'un conscience, tous fils de France, au pays des lumières, amnésie suicidaire. Qu'on fera pour le point qu'on a levé, que celui qu'on lèvera pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. Hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois.
Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes, nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes, nous sommes la nation des lumières. Nous sommes, nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes, nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes, nous sommes la nation de la différence. Nous sommes, nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance.
Petit rappel, signé Damien 16, une chanson sortie en 2002 et ça pique un peu qu'elle soit toujours d'actualité en 2024. Allez, on change totalement de sujet. Lors des rencontres de la Pierre Sèche, c'était à Mende il y a quelques semaines, j'avais rencontré son directeur Benjamin Dessonin, qu'on écoute ça tout de suite.
Benjamin de Seningue, donc je suis directeur de l'association Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche, qui est à la fois une association d'artisans, une école de formation professionnelle de la pierre sèche et également en charge du développement de la filière pierre sèche avec laquelle on développe de multiples partenariats sur de la reprise de ressources en pierre, carrière, sur du travail avec les scientifiques, sur le dimensionnement des ouvrages ou tout simplement sur de la sensibilisation grand public ou documentation de patrimoine.
Alors c'est absolument incroyable parce que la pierre sèche avait perdu un peu de ses lettres de noblesse et là ça fait une vingtaine d'années à peu près que ça revient. Aujourd'hui on est à Mende aux rencontres de la pierre sèche et de la lauze. Qu'est-ce qui fait que ça ait repris comme ça un peu d'importance? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
D'abord l'implication des artisans qui avaient gardé le savoir-faire, qui se sont regroupés entre autres sous l'impulsion du Parc National des Cévennes, qui ont d'abord recréé des réseaux de bâtisseurs qui leur ont permis de se rencontrer, d'échanger, de travailler sur des guides de bonnes pratiques pour référencer les savoir-faire. Et de fil en aiguille, en fait, ces bâtisseurs avaient enregistré les bonnes pratiques et se sont mis en fait à transmettre ces bonnes pratiques. Donc à former, à créer l'école de la pierre sèche, ce qui intéressait aussi les scientifiques. Et en fait, grâce au travail qui a été fait sur les règles professionnelles, aujourd'hui on a des calculs de dimensionnement modernes des murs de soutènement en pierre sèche, ce qui permet en fait de represcrire de la pierre sèche avec des garanties décennales, un cadre assurantiel. On a parallèlement des diplômes qui ont été créés, les CQP, certificats de qualification professionnelle en pierre sèche. On a trois niveaux aujourd'hui qui permettent en fait à des artisans de s'installer sur le métier de bâtisseur. Et on est passé de la préservation d'un savoir-faire avec une vision un peu patrimoniale au redéveloppement d'un métier et aujourd'hui de la filière. Donc on est sur à peu près 250 personnes diplômées du CQP ouvrier professionnel en pierre sèche et on a à peu près aujourd'hui 400 entreprises qui travaillent en France sur du soutènement pierre sèche. Donc c'est un métier qui se redéveloppe et qui est redevenu un métier contemporain qui répond aux grands enjeux qui sont ceux du 21e siècle.
Parlons-en de ces enjeux et parlons de l'intérêt aujourd'hui de construire en pierre sèche. C'est quoi un peu tous ces enjeux?
Alors, il y a de multiples enjeux. D'abord, il y a la vision qu'on a un peu carte postale dans les Cévennes, on va dire. La pierre sèche, il y en a partout. C'est un savoir-faire vernaculaire, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qui convient de rénover, d'entretenir. C'est un patrimoine aussi qu'on crée de façon contemporaine. On crée, enfin, c'est ce qu'on aime à dire, on crée le patrimoine de demain. Le patrimoine, c'est pas créé comme ça. Et donc, effectivement, il y a des gens qui le mettent en œuvre. C'est un gros avantage aussi constructif, on va dire, d'un point de vue écologique. C'est une réserve de biodiversité par rapport à d'autres techniques constructives. On est effectivement sur des avantages très nets par rapport à l'impact carbone sur ce qu'on peut voir en ciment ou d'autres techniques. C'est l'emploi de ressources locales et de travail local. C'est ce qu'on appelle les analyses de retombées territoriales. C'est un peu techno. Pour être très concret, quand vous faites un mur en pierre sèche, vous prenez de la pierre locale, vous payez quelqu'un pour la faire. Quand vous faites du béton, vous achetez des sacs de ciment, souvent en Chine ou en Espagne, et en fait, vous avez déjà 40-50% du prix du chantier qui part pour des matériaux qui n'ont pas un impact si important que ça. Donc rénover en pierre sèche ou construire des murs en pierre sèche, c'est un mode constructif qui est adapté à de nombreux territoires. Ça permet de laisser passer le cycle de l'eau, ça permet de retenir les terres tout simplement, ça permet de créer des réserves de biodiversité. On a un cycle de l'eau qui est bien, bien meilleur que ce qu'on a autrement. Et ça permet tout simplement de redonner vie aussi à des territoires et de créer de l'emploi dans les territoires, donc à des jeunes de s'installer et de perpétrer un savoir qui aujourd'hui est terriblement contemporain.
Là, vous avez eu la visite vendredi lors de ces rencontres. C'était rencontre pro le vendredi. Aujourd'hui, c'est ouvert au public. Parlons d'abord des rencontres pro. Vous avez la visite du sénateur, vous avez la visite du préfet. Est-ce que tu sens un attrait justement pour les politiques de s'intéresser un peu à tous ces bâtis?
Alors oui, il faut saluer d'abord le travail qui a été fait par tous les membres, les artisans. À noter aussi qu'on est sur les rencontres nationales de la Loze et de la Pierre Sèche, puisqu'aujourd'hui on travaille avec les Lozy couvreurs, mais on travaille aussi avec des carriers, puisqu'on essaye de faire une filière patrimoniale unie, de se regrouper. Oui, on sent clairement que les enjeux de la Pierre Sèche aujourd'hui répondent aux besoins des territoires. D'abord parce qu'on a des partenariats historiques avec le commissaire de Massif Central, qui a permis là pour le coup réellement de travailler sur la partie recherche, sur la partie développement, mais parce que ça fixe des populations, tout simplement. Aujourd'hui, les jeunes qui passent les diplômes chez nous apprennent un métier, s'installent, et on a, je crois, 85% qui créent des entreprises et qui vivent dans les territoires, en fait. Donc ça permet à la fois de permettre à des gens de bosser, tout en retapant le patrimoine, tout en embellissant le patrimoine, et puis ça fait vivre politiquement, on va dire, les services publics, les écoles, et c'est des choses qui sont aussi importantes sur les territoires de montagne. On est aussi en phase avec ce qu'on va appeler, entre guillemets, la stratégie bas carbone, mais la Pierre Sèche répond effectivement tout à fait à ses besoins, et sur la question patrimoniale, c'est pour ça qu'on travaille avec les carrières aujourd'hui, c'est le besoin de sauvegarder les carrières pour la pierre à bâtir, parce qu'aujourd'hui c'est une ressource qui disparaît. Et on a besoin aussi de travailler sur l'ensemble de la filière, depuis l'extraction de la pierre jusqu'à sa mise en œuvre. Et donc on travaille aujourd'hui en partenariat avec l'association Artisans Lozy Couvreurs. Et on vient de créer une nouvelle association avec les carriers et les artisans bâtisseurs qui s'appelle donc Culture Pierre.
Aujourd'hui, c'est donc l'ouverture au public. Bon, là, c'est pas parlant parce qu'il y a une conférence en ce moment, je pense, un peu gesticulé. Donc, à mon avis, le public y est peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, quand je suis arrivé là tout à l'heure à 10h, il y avait du monde. Donc, ça veut dire que le public, de plus en plus, commence à s'intéresser et commence à peut-être à découvrir. Et ça, c'est une super nouvelle, en fait.
C'est une super nouvelle et on travaille effectivement, on essaye de diffuser l'information, pas que au milieu professionnel, pas que aux architectes, pas que aux élus. Et c'est pour ça que les rencontres, on les a organisées sur deux temps. Une première journée professionnelle pour voir les développements à venir sur les 3, 4, 5 dernières prochaines années. Et une journée grand public, effectivement, où on montre les métiers. Il y a vraiment une logique d'en faire des métiers vivants. De présenter le métier aux familles. Là, on a des stands à l'extérieur d'artisans qui font des couvertures en loze, on a des carriers qui clivent des roches, on a des artisans bâtisseurs qui font des voûtes, et c'est important de voir ces métiers vivants, de les rapprocher des populations. On n'est pas sur des métiers musées, on est sur des métiers vivants, et on a voulu effectivement pour ces rencontres effectivement donner un espace pour le grand public. Alors ça peut être des gens qui souhaitent se reconvertir, on en a eu ce matin, ça peut être des personnes qui ont des murs à restaurer chez elles, ça peut être tout simplement des personnes qui souhaitent se renseigner sur la technique, mais on a des enjeux aujourd'hui, on va dire, de bataille culturelle par rapport au tout béton, et pour ça c'est convaincre le plus grand nombre, tout simplement, de la mise en œuvre qualitative de la loze, de la pierre sèche et puis de la pierre à bâtir.
Alors on va essayer d'abolir un cliché aussi, le métier peut paraître difficile, dur. Est-ce que des jeunes qui voudraient arriver, ou même des gens en reconversion, etc., est-ce qu'on abolit ce cliché, ou ça reste quand même un métier difficile?
On va parler sincèrement, hein, le retour stagiaire en formation, c'est la terre est basse, les pierres sont lourdes, et quand il fait chaud, il fait chaud, et quand il fait froid, il fait froid. C'est un métier manuel, d'extérieur, mais c'est un métier qui passionne, en fait. C'est une rencontre avec un matériau. Ça, je pense que ce serait pas mal de discuter avec des bâtisseurs, parce qu'ils en parlent très très bien de leur métier. Et je pense que c'est cette sensibilité-là qui est à palper, en fait, à donner, à comprendre. Et souvent, c'est des rencontres, en fait. C'est l'histoire de rencontres. Donc, on peut faire des initiations à l'école de la pierre sèche. On fait des sensibilisations. Après, on a tout un tas de dispositifs. Nous, on est vraiment sur la partie professionnelle. Le but du jeu, c'est de qualifier des artisans. Mais effectivement, il y a des rencontres à faire, et c'est pour ça qu'on ouvre les journées au grand public.
Toi, à titre personnel, c'est pareil, c'est l'histoire de rencontre qui t'a amené à la pierre sèche. Comment ça s'est passé pour toi ?
Oh, c'est une histoire de rencontre. Et aussi un petit peu d'installation en Cévennes, de maraîchage pendant 4 ou 5 ans. Donc du coup, forcément, on remonte des murs. Et c'est une expérience que j'avais eue il y a une vingtaine d'années. Et du coup, effectivement, c'est une rencontre avec un métier passion et avec les artisans aussi qui font effectivement avancer ces filières par conviction, mais aussi, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable, on est dans quelque chose qui dépasse simplement le côté mise en œuvre de murs, etc. On est sur de la recréation d'autonomie par les savoir-faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait contemporain, nouveau. Il y a pas mal de filières qui prennent exemple sur ce qu'on a fait. Et je pense que remettre le savoir dans les mains des artisans, la capacité à faire, c'est aussi des projets. Et je pense que c'est des choix de vie, en fait. On rencontre un matériau, mais on rencontre aussi une philosophie, un savoir-faire. Et du coup, ben, un projet de vie qui va avec.
Deux petites questions pour finir. Tu as abordé tout à l'heure le Parc National des Cévennes. En fait, quel est son rôle aujourd'hui dans la valorisation de la pierre sèche ?
Alors le parc, c'est un partenaire historique, hein. C'est faut remonter 20 ans en arrière, peut-être 25 ans même, où le parc s'intéresse à la pierre sèche et qui a l'impulsion en fait, des premières rencontres de bâtisseurs. Et c'est un partenariat qui s'est fait en fait en continu avec l'association. Sur la plateforme de scientifique, sur des guides des bonnes pratiques, sur des ouvrages grand public, mais aussi sur des rénovations. On a une convention avec le parc qui existe depuis, je ne sais plus dire le nombre d'années, mais qui incite les collectivités territoriales à mettre en œuvre la pierre sèche. On aura cette année des formations d'élus. On aura des chantiers écoles qui vont être réalisés sur des communes adhérentes au parc. On aura des journées grand public. Et c'est du parcours gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça ce qui est intéressant à pointer. C'est la capacité du parc à avoir appuyé en fait, les filières pierre sèche, mais aussi l'ose, pour préserver les savoirs, le patrimoine, mais aussi en fait, recréer du développement économique. Et c'est tout à fait novateur. Et c'est vrai que cet appui a été important. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'association Culture Pierre, donc la filière pierre artisanale, patrimoniale et locale, on a le parc qui est à nos côtés, en nous appuyant, qui va nous permettre aussi de toucher les autres parcs nationaux, d'appuyer la démarche, et on reste sur un partenariat gagnant-gagnant, on va dire, sur notamment la capacité de lecture des paysages. Et on est sur un temps où on s'est occupé de la pierre sèche et de la loze au niveau des artisans. On a besoin aujourd'hui de convaincre les prescripteurs, de convaincre les élus, de convaincre tout un tas de gens, et avoir le parc à nos côtés, c'est un atout précieux.
Une dernière question, elle est d'ordre économique. Alors, c'est une double question. Hein. Est-ce qu'on parle toujours de la difficulté de s'installer, de devenir artisan, etc. Enfin, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on peut savoir combien un jeune qui s'installerait aujourd'hui peut gagner, etc. Est-ce qu'on gagne bien sa vie, mal sa vie ? Est-ce que c'est équilibré par rapport au boulot fourni ? Comment ça se passe ? D'abord ça, et après on parlera pour les gens qui veulent construire en pierre sèche ou en loze.
Alors c'est une question hyper relative, et on a plein de modèles de bâtisseurs. On a des bâtisseurs qui s'installent en auto-entreprise, on a des bâtisseurs qui s'installent en EIRL, on a des entreprises qui emploient des salariés. Il y a tous les modèles, mais globalement on gagne sa vie en pierre sèche, effectivement. Les carnets de commandes sont là. C'est des projets de vie, et c'est des questions de dose, hein, combien vous voulez de faire chantier et d'alternance. Et il y a surtout de la liberté autour du travail, sur la capacité à gérer son chantier, ses rythmes, son calendrier. Et je pense que c'est quelque chose qui est... On peut parler de la rémunération, enfin ça vous pouvez demander aux bâtisseurs, mais je pense que c'est surtout tout le projet de vie qui va avec. Voilà. Et c'est cet équilibre en fait qui est recherché, et la rencontre avec ce métier passion, effectivement, de retrouver. Enfin, c'est vraiment important aujourd'hui, au-delà de la rémunération, de trouver un métier qui a du sens.
Et donc justement, pour les gens qui voudraient construire en pierre sèche ou un toit en loze, ça a la réputation quand même d'avoir un coût. Est-ce que c'est intéressant ? Enfin, on a déjà abordé tout le côté. Écolo, etc. Est-ce que c'est abordable pour tout le monde, ou alors est-ce que c'est quand même un prix, parce que forcément c'est un savoir-faire, c'est de l'artisanat aussi.
Alors sur la question de, je vais me prononcer sur la pierre sèche, hein. Je suis pas l'osier. Je suis partisan bâtisseur en pierre sèche, je suis modestement à dynamiser la filière au sein de l'association, comparativement à un mur réalisé en béton ou en banché, On n'a pas vraiment d'écart de prix, en fait. Ça dépend de la hauteur du mur, etc. C'est-à-dire que de 0 à 1 mètre, de 1 à 2 mètres, vous allez être sur les mêmes prix. Et puis, selon la hauteur du mur, si vous montez à 5-6 mètres, on va avoir des écarts. Mais c'est un cliché un peu, le fait qu'on ait des surcoûts sur, sur la pierre sèche par rapport à d'autres types de murs, dans la mesure où, en fait, si un mur est correctement construit, vous avez un coût. Et en fait, souvent, ce qui fait l'écart, c'est qu'on accepte de construire des choses en dehors des règles de l'art, en fait.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour, je suis Vincent Cossanel, artisan murailleur lozier dans le Lot, dans le Quercy, près de Rocamadour. Je suis aussi coprésident de l'association Le Lozier Coureur, basée à Mende.
Qu'est-ce qui t'a amené à la pierre sèche, tout ça ?
Ah, mais je crois que tout petit, avec mon grand-père, à la ferme, on allait remonter les murs en pierre sèche. Donc après, j'ai eu un cursus scolaire qui m'a permis de travailler sur le bâtiment. J'avais une passion pour l'histoire. Donc je suis vite rentré dans une entreprise de monuments historiques. Et puis un jour, je me suis posé la question de me mettre à mon compte et dans l'idée d'avoir un peu la même philosophie que le monument historique. Mais pourquoi le bâti rural n'aurait pas les mêmes règles et on ne s'appliquerait pas à le restaurer convenablement.
Ça fait maintenant une vingtaine d'années que ça revient, ça doit te faire plaisir. Qu'est-ce qui explique que ça revient comme ça ?
Alors, je pense qu'on est dans l'air du temps, hein. Il faut penser à nos ressources, à gérer l'eau, voilà, matériaux de qualité, les matériaux locaux. Voilà, après on a des emplois locaux, on fait travailler notre territoire. Et puis bon, il y a tout cet aspect patrimonial qui est indéniable, qui est la priorité, donc qu'il faut préserver. De plus en plus, bon, on est suivi, on est porté par toutes les structures, que ce soit les bâtiments de France, les CAUE, les parcs naturels régionaux, nationaux. Donc on est de plus en plus de jeunes artisans motivés pour retrouver ces savoirs. De plus en plus, les jeunes viennent nous voir. Parce que bon, c'est vrai qu'on travaille en milieu rural, on a un cadre de vie qui est exceptionnel, on travaille sur des sites exceptionnels. Et puis on a entre nous une philosophie d'échange qui est énorme et qui nous permet d'apprendre de chacun, quoi.
Ça, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens passionnants et passionnés. Il faut être passionné pour faire de la pierre sèche aussi quelque part.
Ah oui, c'est un métier passion. Hein. C'est, bien sûr, c'est un métier dur, physique. Maintenant, on a quand même des moyens qui nous permettent de moins forcer, mais ça reste quand même un métier pénible. Après, on peut tailler, on peut se mettre à l'abri, on trouve des solutions. Mais après, voilà, moi j'ai des employés, quand ils prennent la photo à la fin du chantier, pour eux-mêmes, voilà, c'est là où je suis le plus heureux, quoi. Au moins, ils sont impliqués comme moi sur les chantiers, quoi.
Alors là, on est devant ton stand. Est-ce que tu peux nous expliquer, faire une photo radiophonique de comment on fabrique un mur en pierre sèche ?
Alors là, on est sur une toiture en pierre sèche.
Ah, c'est une toiture, d'accord.
C'est une toiture en loze. Alors, pour vous expliquer le métier de la loze, c'est en fait, on part de dalles naturelles difformes qu'on va travailler. Ensuite, on va les tailler, on va les écarrir s'il faut, si on travaille sur un pan carré. Ensuite, on va calibrer. Calibrer, c'est-à-dire on va les trier par profondeur, hauteur qu'on appelle la hauteur de la loze, tous les 5 cm. Parce qu'il faut savoir, sur une toiture en loze, on part des plus grandes pièces qui sont en bas jusqu'aux plus petites pièces qui sont en haut. Alors suivant les pentes, ça peut varier. On peut être nous en Dordogne ou dans le Lot, on est à 30 cm en haut pour 50 à 60 en bas. Ici en Lozère, on va plutôt rester sur du 45 maximum en haut. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, l'eau se concentre plus en bas du toit qu'en haut, quoi. Donc c'est tout simple, c'est pour ça qu'on a plus de recouvrement, qu'on appelle en bas, en partie basse.
C'est génial. Et en fait, est-ce qu'on sait à peu près combien d'années, combien de temps la pierre sèche a été créée ? Enfin, la pierre sèche, le toit en loze. Est-ce qu'on sait à peu près quand ça a été, quand les hommes se sont dit « Eh, on va le faire comme ça parce que c'est génial ».
Alors la pierre sèche, moi j'ai eu la chance de travailler sur des sites de dolmen avec des archéologues. on s'aperçoit que le mur en pierre sèche était déjà présent sous les tumulus, même la pierre clavée qu'on appelle. Déjà ces deux techniques, ils les connaissaient. Dans certaines zones, on m'a rapporté, j'ai vu des photos de voûtes en encorbellement. Donc déjà qui pouvaient permettre une certaine étanchéité. Après la toiture, elle a eu au Moyen-Âge, elle a déjà existé. Après, c'est difficile à dire vraiment la toiture, la technique de toiture, depuis quand elle existe. Puisqu'après, on a retrouvé, nous, dans le Quercy, des bâtis ouvrages en pierre sèche, voûte en encorbellement, et après, on avait une couverture en genêt qui complétait l'étanchéité. Alors, après, là, c'est vrai qu'on est un peu dans l'inconnu. Puisque bon, c'est des matériaux, aucun édifice n'est daté. Hein, donc, et puis la pierre, on ne peut pas la passer au carbone 14, donc c'est assez compliqué.
En tout cas, j'ai l'impression aussi que c'est remettre je sais pas, l'artisanat, le métier ouvrier au centre de quelque chose de fort. Contrairement à ce qu'on a vu dans les années 60 ou 70 où on a pris les ouvriers, pardonnez-moi l'expression, et pour des merdes en fait, vraiment travailler avec des matériaux de merde. Aujourd'hui on revient et à ça, à la noblesse d'un art qui est absolument génial et qui permet peut-être quelque part d'améliorer aussi les conditions de travail, même si ça reste un métier dur. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est en fait maintenant, en fait, notre travail demande beaucoup de main d'œuvre. Déjà, c'est une valeur, une plus-value pour nos territoires. Hein. On crée du sens à nos travaux, à nos travaux. Et voilà, pendant quelques années, le ciment est apparu. On a fait en sorte de limiter la main-d'œuvre sur les chantiers. Quoi. Ce qui est aberrant, puisque en fait, la valeur ajoutée elle reste plus sur notre territoire. Quoi. On l'exporte, quoi. C'est les grands groupes qui prennent toute cette valeur ajoutée. Donc le but, c'est quand même de faire travailler des gens sur nos territoires et puis voilà, de les préserver, nos territoires. C'est là qu'on est heureux. Quoi. Et puis,
Vous avez l'impression d'être écoutés aujourd'hui, vous les artisans, par les politiques, etc. Est-ce qu'on va dans le bon sens, à ton avis ?
Oui, de plus en plus, les politiques nous suivent, ils voient ce qu'on fait, comment on a avancé, les APPS depuis 20 ans, les ALC maintenant depuis 10 ans, on commence à essaimer nos associations un peu partout en France. Donc, de plus en plus, là aujourd'hui on le voit, il y a des gens qui viennent de la frontière de Suisse, il y en a hier, il y en avait de Marseille, il y en a de Corée. On a des contacts à Marseille, des bureaux d'études qui commencent à s'y intéresser. Comment calculer ? C'est une problématique. Sur les ouvrages, il faut que pour eux, un mur en pierre sèche, ça ne tient pas. Mais non, ça tient. Si c'est bien construit, ça tient. La preuve, il suffit de faire un tour dans nos campagnes. Ça a 200 ans. Je ne sais pas si une maison qu'on construit maintenant durera 200 ans. Quoi. Donc oui, ça se développe de plus en plus. Les politiques sont vraiment, ils le comprennent, puisque c'est toujours du travail sur notre territoire. C'est l'économie locale qui est en jeu. Donc ils nous suivent de plus en plus. Quoi.
Mais merci beaucoup, ça fait vraiment du bien à entendre. Quoi. Et puis, bonne fin de salon.
Merci à vous, bonne journée.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. On se quitte avec Damien 16, Oiseau Liberté. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Excellente journée, ciao.
Ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nos internationales battront toujours l'espoir. Et si nos frères tombent, nous chanterons leur mémoire. Et si c'est sous les bombes que s'écrit notre histoire. Resserrons nos rangs, nous planterons nos croix, nous combattrons les vents, tout qui nous combattra. Comme un oiseau blessé, dont la nuit volera, mon oiseau liberté, qui repart au combat. S'il faut mourir d'amour, mourir de liberté, partir comme un oiseau qui s'en est envolé, alors oui que je meurs comme un drapeau dressé, une rose tendue face au fusil pointé. Une rose en martyr pour nos humanités, juste un bouquet d'amour pour nos amis tombés, qui n'ont eu que leur fleur à offrir au bûcher, qu'une fleur à leur tendre à ses fusils pointés. que se lèvent tous ceux qui ont le même Dieu sur terre, puisque le Dieu des dieux, oui, c'est d'aimer son frère, quelle que soit la douleur des blessures de nos âmes, de mon pays qui pleure quand on touche à la flamme, quels que soient les cimetières, enfants de notre patrie, force des lumières tire plus loin qu'un fusil. Mon pays des lumières, il est l'heure de s'unir, ton drapeau triste France, il est l'heure de brandir, que flotte pour toujours de ce vendredi noir, mon pays liberté, le drapeau de l'espoir. Un jour l'oiseau me dit comme un souffle printemps, qu'un jour prochain, oui, sur la terre, tous nos enfants, il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus le sang, il n'y aura plus ces misères qui nous cernent à tout vent. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles, le taux de tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres, mon oiseau infini. Il repart au combat sous le ciel de novembre, la lumière renaîtra pour de meilleurs septembre. Il repart au combat face à l'ombre des nuits, il repart au combat contre la triste vie. Il vole sur les plaines, il s'en va triste plume, sous le chant de nos pères, sous le chant de la lune, au vent soufflant les terres qu'on martèle en plume. Nous chantons nos prières pour que la nuit s'allume. Chante avec moi, frangin, pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui ne fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur, le clair, et perdus dans les crins de notre mère la terre. Envolés sur le dos de l'oiseau liberté, emportés par les crocs de la haine incarnée. Si nous sommes cernés par tous les terrorismes, ceux du sang de la haine ou ceux de nos fascismes, s'il faut plus qu'une armée pour protéger nos libres, on ne combat jamais mieux qu'en ouvrant des livres. Pour cela, fusillés qui pour l'éternité resteront le symbole de notre liberté. Nous chantons nos prières, nous chantons pour la terre, nous chantons la lumière contre l'obscurité. Tous les peuples du monde ont levé liberté, quelles que soient les prières pour ne pas oublier, main tendue à leurs frères contre fusil pointé, que nous sommes sur la terre tous frères d'humanité. Nous sommes fils des Ardennes, nous sommes fils de Provence, puis jusqu'aux Aquitaines, nous sommes la France, nous sommes pays du Libre.